Parle encore, Seigneur, à notre esprit ce soir. Nous avons besoin encore de saisir et comprendre la révélation de ta parole, car nous en avons besoin. Alors, je me dispose encore ce soir pour ton peuple, afin d'être un instrument, un canal d'encouragement, de bénédiction, de restauration, de relèvement. Je ne suis qu'un serviteur inutile, mais je sais, Père, que tu peux me rendre utile ce soir. Alors fais-le, que Jésus-Christ seul soit glorifié au milieu de l'assemblée des saints, ces hommes et ces femmes qui comptent à tes yeux, qui ont du prix, pour lesquels tu as donné ta vie à Golgotha. Alors parle encore, les serviteurs écoutent et prends toute la place en ces lieux. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et ensemble nous pouvons dire amen.
Amen.
Amen et Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà. Alors nous sommes vraiment dans la chute de notre séminaire. Et donc, nous avons vu les trois saisons majeures dans notre vie. Et donc, à chacun de discerner dans quel temps il est. S'il est dans une saison où Dieu parle, c'est que vraiment, c'est un temps d'arrosage. Et pendant cette saison-là, il n'y a rien qui va se mettre en place. Il va d'abord parler parce qu'il doit susciter la foi. Et finalement, vous allez vous rendre compte que le but que Dieu poursuit, c'est de se faire un peuple de vrais adorateurs. Et à travers toutes les saisons de Dieu, il poursuit un seul objectif, c'est de se faire un peuple de vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont été éprouvés par Dieu. Les vrais adorateurs, ce sont des hommes et des femmes qui ont un vécu avec Dieu, qui ont expérimenté Dieu. Mais vous ne pourrez pas expérimenter Dieu en dehors du temps du soir. C'est pendant le temps du soir, c'est pendant le temps de fécondation que vous allez arriver à une évidence, c'est-à-dire que Dieu, il est. Parce qu'à travers les temps du soir de votre vie, vous allez traverser des moments difficiles et là, Dieu va faire certaines interventions dans cette situation-là. C'est là que vous allez comprendre que même dans la condition la plus difficile, Dieu reste toujours maître des temps et des circonstances. Donc Joseph, bien qu'étant en Égypte, bien qu'étant esclave, bien qu'étant dans les chaînes, s'il faut le dire ainsi, Dieu s'est toujours arrangé même dans cette condition-là pour que Joseph ait la faveur. Donc quelles que soient les situations que vous allez pouvoir vivre, je tiens à nous rappeler ce soir que Dieu reste maître des temps et des circonstances. C'est lui qui va orchestrer cela. Et quand Dieu va vous mettre dans une parenthèse, frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce soir, il sait très bien que vous n'allez pas mourir dans cette situation-là. Il reste maître des temps et des circonstances. Vous ne mourrez pas parce que c'est lui qui coordonne, c'est lui qui contrôle les événements. David, Dieu s'est arrangé dans son temps de soir à maîtriser les événements pour lui. À un moment donné, la Bible nous révèle que Saül était en train de poursuivre David. Et David et ses hommes se sont retrouvés complètement dans un impasse, encerclés par l'armée de Saül. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Mais comme il est maître des temps et des circonstances, il va créer une situation. Au moment où Saül s'apprêtait à saisir David, la Bible révèle que Saül va recevoir un message. On va lui dire que au niveau de la ville, au niveau de Jérusalem, de leur pays, les Philistins sont en train d'attaquer. Alors à ce moment-là, Saül va se détourner de David pour repartir, défendre la ville et le pays. Donc Dieu a créé une diversion parce que David était dans son temps du soir et dans ce temps du soir, c'est Dieu qui coordonne les événements. Tu ne mourras pas dans cette situation parce que Dieu va créer des situations dans une autre situation. Donc Dieu crée une diversion pour préserver David, parce que David ne devait pas être attrapé ni mourir. Il était dans son école avec Dieu. Donc, les différentes saisons que vous traversez, si c'est réellement Dieu qui est le chef d'orchestre, vous ne mourrez pas. Quelquefois, vous dites, Seigneur, je n'en peux plus, je vais mourir. Non, Dieu, j'insiste là-dessus, il reste maître des temps et des circonstances. Même si vous avez l'impression que c'est une détresse, il restera maître des temps et des circonstances. Même dans la condition dans laquelle tu es, il va te préserver. C'est important de le savoir. Donc Dieu veut se faire un peuple qui est des vrais adorateurs. C'est pourquoi les différentes saisons, c'est un vécu avec Dieu, c'est une expérience avec Dieu, de telle sorte que lorsque vous allez rentrer dans votre saison de germination, vous saurez exactement comment apprécier ce que Dieu vous donne. Vous savez, il y a certaines choses dans la vie, quand vous les recevez sans payer le prix, vous ne valorisez pas cette chose. Ce que vous valorisez, c'est la chose à laquelle vous avez payé le prix. Parce que vous vous souvenez de comment tout a commencé. Il y a des choses avec Dieu, c'est la même chose. Il va vous faire traverser certaines situations pour que vous puissiez apprécier. De telle sorte que même si vous rentrez dans un temps de germination, vous n'allez pas vous prendre la tête parce que vous savez d'où Dieu vous a tiré. Vous savez comment l'histoire a commencé. Et dans ce souvenir-là, vous n'allez pas oublier que ce que tu es devenu, c'est la grâce de Dieu. Joseph est devenu ce qu'il était par pure grâce. Ils l'ont dépouillé du vêtement que Jacob lui avait fait. Dans la jalousie. Joseph a reçu un vêtement de la maison de Potiphar. Ce vêtement également a été dépouillé, déchiré par la femme de Potiphar. Joseph a eu un troisième vêtement dans la prison. Mais non, le vêtement que Joseph a eu dans la prison, ce n'était pas son terminus. Parce que Dieu avait réservé un autre vêtement dans la maison de Pharaon. Donc on lui a déchiré le vêtement, mais il ne savait pas la destinée qu'il avait. Voilà pourquoi lorsque Pharaon fait le songe, parce que le songe de Pharaon était le signal. C'est pourquoi je dis, les temps Dieu annonce, il y a des signes que Dieu va commencer à manifester. Dieu va passer par le songe de Pharaon, mais déjà ce que vous devez comprendre, c'est que dans le temps de fécondation, tous les événements que Dieu va orchestrer, c'est pour vous faire amener à votre destinée. Donc, au premier abord, vous n'allez pas apprécier cela. Pourquoi? Parce que l'homme regarde souvent au détail. Apprenez à regarder le plan global de Dieu par rapport à votre vie. Or, nous, on regarde souvent ce qui se passe aujourd'hui. On apprécie juste à cause du aujourd'hui. Joseph ne se rendait pas compte que s'il s'est retrouvé dans cette prison, ce n'était pas un hasard. Pourquoi? Parce qu'on a dit que Joseph, après qu'il était faussement accusé, il va se retrouver dans la prison, mais pas n'importe quelle prison. Une prison où on mettait les prisonniers de Pharaon. En d'autres termes, c'était une prison dans la section VIP. Parce que dans les prisons d'aujourd'hui, il y a des sections. Pourquoi Joseph se retrouve dans la prison section VIP? Parce que Dieu avait rendez-vous là-bas avec Joseph. Parce que Dieu devait l'amener dans la maison de Pharaon. Or, pour arriver dans la maison de Pharaon, il fallait passer par les prisonniers qui étaient rattachés à la maison de Pharaon. Mais Joseph, à cette période de sa vie, ne peut pas comprendre pourquoi il était là. Pour lui, il était juste en prison. On lui donne des responsabilités même en prison. Vous voyez, Dieu ne le délivre pas de la prison, mais Dieu le distingue dans la prison. C'est ça le problème, c'est que vous vivez des situations où Dieu vous distingue dans autre chose, mais la chose que vous attendez là ne vient pas. Joseph, ce qu'il désirait le plus, c'était sortir et repartir à Canaan. Mais Dieu le garde là et il le distingue, mais ne sort pas de sa servitude. Ce qui fait que lorsqu'il a révélé le songe de les chansons de Pharaon, celui qui verse à boire à Pharaon, quand il va sortir, on voit Joseph, cette volonté de Joseph de repartir à Canaan. Il dit vraiment, pour parler de moi à Pharaon, moi je ne suis pas d'ici, bon j'ai été vendu par mes frères. Vous sentez que Joseph, il n'a toujours pas à ce moment précis de sa vie compris le plan de Dieu. Il négocie, il dit parle de moi à Pharaon, je dois repartir chez moi. Mais La meilleure dans cette histoire, c'est que quand le monsieur il sort, il va oublier Joseph. Et il ne va pas l'oublier pendant un mois. La Bible déclare 2 ans. 2 ans vont passer. Joseph a été oublié pendant 2 ans encore, il se retrouve en prison. Imaginez un peu un tel homme, il peut être encore dans la détresse pour dire, mais finalement, est-ce que je suis maudit ou pas? 2 années vont passer où Joseph, qui va peut-être dire, mais j'ai loupé l'opportunité, le monsieur là. Mais il est le proche de Pharaon, puisque c'est lui qui lui verse même à boire. Donc certainement, c'est la bonne personne pour que ma vie change. Frère, vos opportunités ne sont pas les opportunités de Dieu. Même si humainement parlant, la personne, même si elle parle au président de la République, c'est son proche, si Dieu a décidé que tu vas passer par un autre chemin, même cette personne-là ne pourra rien faire pour toi. Alors Joseph négocie. Mais Dieu va encore dire, tu ne sortiras pas maintenant. Pourquoi? Parce que dans le plan de Dieu, Joseph, qui est une image de Christ, qui est un type de Jésus, Joseph devait sortir de la prison à 30 ans. Voilà pourquoi la Bible déclare, quand Pharaon va faire le songe et que Joseph va être invité au palais, Joseph avait 30 ans. Pourquoi le chiffre 30? Parce que le chiffre 30, c'est le chiffre de la maturité. C'est le chiffre de la responsabilité. Et Joseph est rentré dans le chiffre 30 parce que ça veut dire pour Dieu, c'est que maintenant tu es prêt. Tu es prêt. Et quand Joseph vient dans la maison de Pharaon, c'est là maintenant qu'il devait germer. C'est là maintenant que la parole qui a été annoncée devait se faire chair. C'est là maintenant que les prophéties annoncées devaient se matérialiser. Donc, Joseph ne peut pas germer ailleurs. Dieu avait emmené Joseph dans un pays où là il devait être élevé. Mais Dieu avait prévu une maison où tout allait commencer, c'est la maison de Pharaon. Et c'est là qu'après être sorti de la prison, on lui enlève son vêtement de prisonnier. Et la Bible déclare qu'on va lui donner un nouveau vêtement. Et c'est avec ce vêtement-là qu'il va régner sur l'Égypte. Donc Joseph, pour arriver à la germination, il a traversé des situations dans sa vie où Dieu restait au contrôle. C'est pourquoi j'insiste pour dire que Dieu reste maître des temps et des circonstances. Le temps n'est rien pour Dieu. Le temps influence les hommes, mais ça n'influence pas Dieu. Il peut l'avancer comme il peut le reculer. Il fait ce qu'il veut. Il émet des temps et des circonstances. Quand toi, tu dis que ça a mis du temps, Dieu, pour lui, il n'a pas la même notion que nous. La Bible dit qu'un jour, pour lui, est égal à 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le temps de fécondation, c'est un temps que Dieu lui-même il a fixé. Comme j'ai dit, c'est une parenthèse. Et c'est lui qui a fixé le temps de l'épreuve. Ce n'est pas vous. Et il va arrêter quand il va constater que tu as réussi. Tant que tu n'as pas réussi, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te faire tourner. Dans le fond, tu vas vivre la même épreuve, mais il va changer juste la forme. Et si tu analyses bien, et si tu discernes bien ta vie, tu vas te rendre compte que dans ce que tu vis là, dans le fond, c'est la même chose que Dieu est en train de poursuivre, mais il change juste la forme. Pour que tu comprennes, tant que tu ne comprendras pas, il va te faire tourner là. Parce que c'est un temps décisif dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est là, comme je dis, que les racines se forment et c'est là que sortent les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sortent du temps du soir. Les vrais adorateurs sortent de ce temps de brisement. De telle sorte que lorsqu'ils parlent à Dieu, lorsqu'ils élèvent le Seigneur, ils parlent avec raison. Ils parlent parce qu'ils ont un vécu avec le Seigneur. Donc le temps de fécondation, tu prépares les vrais adorateurs. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu en dehors de la révélation de Dieu. Or, Dieu se révèle dans les temps du soir. Lisez bien votre Bible, Dieu venait à Adam le rencontrer, ce n'était pas le matin, c'était le soir. C'est le soir que Dieu venait se révéler. C'est le soir que Dieu venait parler. Et donc, Dieu se révèle dans les temps du soir pour que justement vous puissiez savoir qui il est. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Et Dieu le sait. C'est pourquoi il crée certaines situations pour vous amener à l'évidence qu'il est. Pour que vous puissiez saisir la révélation du « Je suis ». afin que dans votre adoration, lorsque vous dites « tu es », comme je l'ai partagé au chant tout à l'heure, vous sachiez ce que vous êtes en train de dire, parce que « je suis » s'est révélé à vous. Tu n'existes pas si je ne dis pas que tu es. C'est « je » qui donne l'existence à « tu ». Et lorsque tu prends conscience qu'il est lui-même sa propre existence, alors il se tourne vers « je suis » et dit « tu es ». Donc si « je suis » ne parle pas, tu n'existes pas. Notre existence dépend de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare « tel il est, tel nous sommes dans le monde ». Donc si « je suis » ne parle pas, tu ne pourras pas dire « tu es ». Pour que tu dises que tu es le Dieu qui guérit, il faut que « je suis » te guérisse. Si « je suis » ne guérit pas, tu ne pourras pas dire « tu guéris ». Je suis le Dieu qui guérit. Et les vrais adorateurs sortent de là. Les vrais. Un vrai adorateur, il ne fuit pas l'épreuve. Il reste là. Mais il sait qu'il n'est pas seul. Parce que Dieu est avec lui. Il y en a qui fuient. Il y en a qui fuient. Il y en a qui aiment encore trop leur vie. La Bible dit quoi? Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et celui qui la perdra pour moi, dit le Seigneur, la retrouvera. Tu dois te poser la question, tu te situes à quel niveau? Ne fuis pas quand c'est l'épreuve qui vient de Dieu, reste là. Tu restes là, tu ne bouges pas. Parce que l'épreuve que Dieu permet dans ta vie, ça ne va pas te tuer. Mais le diable va te faire croire que tu vas mourir. L'épreuve que Dieu permet dans nos vies, ce n'est pas pour nous tuer. C'est pour façonner notre caractère. C'est pour nous révéler notre niveau de maturité. C'est pour révéler notre niveau de foi. On en est où? Est-ce que réellement, je suis vraiment quelqu'un qui croit en lui? L'épreuve a plusieurs rôles dans notre vie. C'est pour te purifier, te briser, te préparer à rentrer dans les choses que Dieu t'a destinées. Donc maintenant, nous allons voir comment vivre dans les différentes saisons avec Dieu. C'est bien beau d'identifier ta saison. Quand je suis dans une saison d'arrosage, comment je dois me comporter? Quand je prends conscience que je suis dans une saison de fécondation, comment je dois me comporter? Même dans la saison de germination, il y a une manière de vivre. C'est important, frères et sœurs. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Philippiens 4, verset 12. Philippiens 4, verset 12, puisqu'on va terminer par là ce soir. Par cette partie, comment vivre dans les différentes saisons. Philippiens 4, verset 12. Si c'était dans l'Ancien Testament, on aurait dit, ben écoutez, c'est l'Ancien Testament, Jésus il est déjà venu, donc soit on n'est pas concerné par cette parole. Mais cette parole que nous allons lire ensemble, elle est bien dans le Nouveau Testament, et l'auteur de cette parole, c'est bien l'apôtre Paul, qui a reçu le mandat d'instruire l'Église. Ce n'est pas venu de quelqu'un d'autre. Et Paul nous révèle dans ce passage justement comment vivre. Mais déjà pour le comment vivre là, il va d'abord nous révéler que les saisons, frères et sœurs, existent dans la vie de quelqu'un. Philippiens 4, 12 déclare ceci. C'est hein? Oui, c'est 12, non, parce que moi j'ai quelle version c'est là? Vous, c'est quel Ah oui, moi je suis dans le chapitre 2. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Regardez un monsieur comme ça qui a été appelé par Dieu et qui a été mandaté pour édifier l'Église. Il nous révèle que dans la vie, d'abord ça commence par sa propre vie. Il y a des saisons. Il reconnaît qu'il a vécu des temps d'humiliation. Il reconnaît, en tant que ce grand apôtre Paul, que dans sa vie, dans sa marche avec Dieu, il a vécu les temps de disette. Vous savez ce que c'est la disette? C'est vraiment la famine extrême. Il reconnaît qu'il a vécu dans sa marche avec Dieu des temps d'abondance et de prospérité également. Il reconnaît que dans sa vie, il a été rassasié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paul, toute sa vie, n'a pas été le tapis rouge. Il y a eu des moments dans sa vie où il a traversé des situations difficiles. Alors, la question que nous nous posons ce soir, lorsque l'apôtre Paul était dans la saison de disette, j'emprunte ses propres mots, est-ce qu'il était sous la malédiction? Est-ce que c'était le diable? Est-ce que c'était un lien de famine? Parce qu'il était dans la disette. Alors, est-ce que Paul nous dit que dans le temps de la disette, il a commencé à chasser les esprits, les démons? Parce qu'il reconnaît que moi, en tant qu'apôtre de Dieu, j'ai vécu ça. Mais en même temps, il nous donne les solutions. Comment il a fait? Quand il a commencé à traverser le temps de disette, il dit, je sais vivre. Il dit, je sais vivre. Donc, ça veut dire, quelle que soit la saison, il dit, je sais vivre dans. Ça veut dire que nous devons apprendre à vivre dans la saison. On ne doit pas fuir la saison, mais nous devons apprendre à vivre dans la saison. On ne la fuit pas. Lui dit, je sais vivre dans. Donc ça veut dire que dans la vie de Paul, quand il y avait l'humiliation, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Il dit, en tout et partout, il dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. Vous vous rendez compte? Il dit, il a appris. Même à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la... Il dit, j'ai appris à être dans ces différentes saisons. Aujourd'hui, par rapport à ce que vous écoutez comme évangile d'aujourd'hui, on ne pourra pas vous dire que dans la saison de disette, là, que Dieu peut permettre d'ailleurs pour nous apprendre, puisque Paul dit, j'ai appris. Non, ce n'est pas de Dieu. Tu dois chasser ça. Au nom de Jésus, c'est un lien. Mais Paul dit, dans la disette, là, il n'a pas chassé au nom de Jésus. Parce que Dieu, dans le temps de fécondation, il peut permettre des situations dans votre vie qui vont vous amener à la disette. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant le temps de fécondation, c'est une parenthèse que Dieu va placer dans votre vie. Ce n'est pas pour vous tuer parce que ce n'est pas votre destination. Mais c'est juste une période, à un moment de votre vie où Dieu va devoir briser quelque chose. C'est pourquoi il va mettre cette parenthèse là. Ce n'est pas que la volonté de Dieu soit que vous soyez dans la disette. Là, il faut que vous me compreniez très bien. La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez souffrir. Mais Dieu, dans son plan, peut utiliser la souffrance, des situations qui vont vous amener à souffrir, mais qui ne sont pas sa volonté, mais pour vous amener à son plan. Joseph a souffert moralement, émotionnellement. David également. Mais toutes ces souffrances l'ont amené à sa destinée, à accomplir le plan de Dieu. Ils ont souffert pendant 400 ans en Égypte, c'était une souffrance. Mais il y avait un plan de Dieu là-dedans. Mais pourtant, la volonté de Dieu, ce n'était pas qu'il demeure dans la souffrance. C'était juste un passage, un transit. Dieu peut permettre des situations dans votre vie que vous allez voir cela comme une souffrance. Mais lui, il ne va pas voir cela comme une souffrance. Lui verra cela comme un instrument pour vous amener à votre destinée. C'est pourquoi, pour que je sois bien compris ce soir, pour ceux qui sont parents, lorsque vous avez un enfant qui fait des bêtises, et quand vous donnez la fessée à l'enfant, ou bien quand vous correctionnez votre enfant, l'enfant, lorsqu'il reçoit la correction, pour lui, c'est une souffrance. Mais vous, quand vous correctionnez votre enfant, ce n'est pas, vous ne le correctionnez pas pour qu'il souffre, vous le correctionnez pour l'éduquer. Mais le regard du père ou bien des parents et le regard de l'enfant n'est pas le même. L'enfant perçoit cela comme une souffrance. Mais le père, ce n'est pas frapper pour frapper l'enfant. Le père, il corrige l'enfant. Ce n'est pas la même chose. Donc, Dieu nous corrige et dans les corrections de Dieu, nous on appelle ça la souffrance. Le monde appelle ça la souffrance. Mais lui, il dit qu'il châtie ceux qu'il reconnaît comme fils. C'est écrit dans le livre d'Hébreu. On utilise en plus un gros mot, hein, c'est le mot châtier. Un petit mot châtier. On dit, il châtie ceux qu'il reconnaît comme fils. Donc Dieu, dans un souci, dans un besoin de correction et d'éducation divine, il va nous donner des fessées. Mais comme on ne comprend pas l'éducation du Père, on va dire, ah, je souffre, Dieu me fait souffrir. Dieu fait souffrir personne. Mais comme nous, en tant que parents, il nous correctionne. Et comme j'ai dit que c'est deux regards complètement différents. Il y a le regard des parents et il y a le regard des enfants. Le papa, quand il entend t'a donné la fessée à son enfant, il dit, bah, je suis en train de le faire souffrir. Non, il donne la fessée parce que pour lui, il dit qu'en lui donnant la fessée, il faut que je le pousse à réfléchir. Comme ça, la prochaine fois, il se souviendra que je lui avais donné une fessée. Il ne faut pas faire ça. Et l'enfant, il va pleurer. Il va crier. Pour l'enfant, c'est une souffrance parce qu'il pleure. Ça lui fait mal. Et même certains parents, quand ils donnent la fessée à l'enfant, lui-même, il a mal au cœur, mais il n'a pas le choix, il oublie de donner la fessée. Même il ferme les yeux, il tourne la tête, il donne la fessée. Mais parce que ça lui fait mal, mais il n'a pas trop le choix, il faut correctionner. Je pense que c'est ce que le Seigneur, il fait. Il nous aime tellement. Et ce n'est pas de l'amusement lorsqu'il nous correctionne. Mais c'est une règle de discipline et d'éducation. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et lorsque Dieu permet certaines saisons, que nous appelons les saisons de disette, d'humiliation, de difficulté, là, c'est juste pour un temps. Maintenant, l'apôtre Paul, il dit, il sait vivre. Donc, maintenant, la saison de l'arrosage, lorsque vous traversez la saison de l'arrosage, c'est la période où Dieu est en train de vous parler. Il vous parle. La première des choses que vous ne devrez pas faire dans cette saison-là, quand Dieu commence à vous parler, ne commettez pas l'erreur de Joseph. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand Dieu vous révèle des choses, vous n'êtes pas tenu d'en parler à tout le monde. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Dieu est en train de parler à Joseph. Dieu est en train d'arroser la vie de Joseph. Mais Joseph, dans son zèle, il allait dire aux gens, « Oh, j'ai fait le sang, Dieu m'a montré. » Il pensait que les gens allaient être contents. C'est pourquoi vous allez remarquer, même dans la vie de tous les jours, quand vous aimez tout raconter vos choses, oh là, Dieu va me bénir, j'ai fait ce... Il y a même des frères ou des sœurs qui sentaient que la personne, le visage a changé. Dans son cœur, c'est dit, mais elle se prend pour qui? Pourquoi? C'est toujours elle. Parce que toi aussi, tu as manqué de sagesse. Qui t'a dit d'aller raconter tout ce que Dieu va faire à tout le monde? Joseph pensait que tout le monde allait contre. Même son père Jacob a dit, mais attends, toi, tu te prends pour qui? Donc nous, on va devenir tes esclaves, on va se prosterner devant toi. Il y a des choses que Dieu vous donne. Ce n'est pas pour dire à tout le monde. Pendant le temps d'arrosage, déjà, j'ai dit, ne commettez pas l'erreur de Joseph. Les paroles que Dieu vous donne, les promesses que vous recevez, gardez ça pour vous. D'abord. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Pendant le temps d'arrosage, si Dieu vous parle par la voix prophétique, la Bible déclare, ne méprisez pas les prophéties. Mais, il y a le mais là, hein? Mais examinez toutes choses. Donc, n'ayez pas une attitude, vous êtes dans une saison d'arrosage où Dieu vous parle par différents canaux, même par la voix prophétique, même à travers le prophète, même à travers... Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses à la lumière de la parole. Parce que l'esprit de la prophétie, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. L'esprit du livre, c'est l'esprit de la prophétie. Donc quelqu'un ne peut pas prophétiser et c'est en total contradiction avec l'esprit du livre. Parce que celui qui inspire, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc si c'est poussé par le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui a inspiré le livre, la parole écrite, il ne peut pas se contredire. C'est pourquoi la règle pour évaluer toute prophétie reste le livre. Et à travers le livre, vous découvrez le caractère du Père. Donc, si on vous demande, dans une prophétie, de faire une chose qui ne correspond pas au caractère du Père, ne dites pas amen à n'importe quoi. La Bible dit, ne méprisez pas. Examiner, ça veut dire scruter. Examiner, ça veut dire discerner. Décortiquer. Analyser. Or, vous les chrétiens d'aujourd'hui, vous dites amen à n'importe quoi sans réfléchir. Amen, c'est pas un slogan. Quand tu dis amen, c'est que tu es convaincu que c'est vrai parce que ça veut dire c'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est devenu amen, 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 amen. Non, frère. C'est pourquoi moi, quand je prêche, j'ai pas besoin de vos amen. Et c'est devenu comme ça pour meubler les prédications. Amen, 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 amen. Amen, ça veut dire c'est la vérité. Et en plus, c'est le nom de Jésus lui-même. Révélé dans l'Apocalypse, il s'appelle l'Amen. Alors toi, tu dis amen à n'importe quoi. Le prophète va te dire, écoute, à minuit, il faut que tu t'habilles en tenue violette. Tu vas monter sur le toit de la maison. Et puis, tu vas lever la jambe là, droite et le doigt, je ne sais pas comment là. Et tu vas attendre là. Et toi, bêtement, le prophète a parlé. Pendant que tout le monde dort, tu montes sur le toit de la maison avec une djellaba violette. Et tu lèves la jambe et la main vers le ciel parce que Dieu va te visiter. Et on dit parce que le prophète a parlé. Frère, un prophète, ce n'est pas un manipulateur, c'est un messager. Il libère le message. Si tu ne crois pas, c'est ton problème avec Dieu. Mais il n'est pas là pour te convaincre, il n'est pas là pour t'obliger. Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. La Bible déclare, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. On n'est pas là pour vous convaincre. Mais les prophètes d'aujourd'hui, là, ils vous obligent à croire. Non. Donc, pendant le temps d'arrosage, même quand Dieu va parler par la voix prophétique, parce que tu ne sais pas par qui Dieu peut parler. Même par un païen, Dieu peut te parler. Ne méprise pas les prophéties. Mais tu dois discerner, analyser, voir à travers le livre. Est-ce que ça correspond au caractère de Dieu? Et après, si ça correspond au caractère de Dieu, tu retiens ce qui est bon pour Dieu pour toi. Comme je l'ai dit hier, ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour Dieu pour toi. Ne cesse que de le répéter depuis hier. Hein. Ce n'est pas ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour Dieu pour toi. C'est-à-dire ce que Dieu juge être bon pour toi. Pas ce que toi tu penses être bon pour toi. Parce que ce que Dieu juge être bon pour toi ne t'arrange pas toujours. Dieu peut te demander des choses, mais toi ça ne t'arrange pas. Maintenant on fait comment? Tu n'as pas le choix que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Qu'elle soit faite. Pendant le temps d'arrosage, ne méprisez pas les prophéties. Examinez les paroles prophétiques. Les songes, les visions, tout ce que vous recevez là. Passez ça au fil, au crible. Passez ça au scanner. Ne dites pas amen, s'il vous plaît, à n'importe quoi. Même quand c'est une soi-disant prophétie d'élévation, ne dites pas amen à n'importe quoi. Sanctifions le nom du Seigneur. Parce que sinon, on devient des personnes qui faisons du marketing. Dieu n'a pas besoin qu'on fasse du marketing pour nous. Nous devons dire la parole du Seigneur, c'est tout. On n'est pas là pour que vous puissiez apprécier le message et à la fin dire, ah vraiment, pasteur, tu as donné un bon message aujourd'hui. Hein. Mon objectif, ce n'est pas de vous donner un message pour que vous dites à la fin que c'était un bon message. Si je suis convaincu dans mon esprit que c'est le message de Dieu pour vous, je vous le libère. Que vous l'acceptiez ou pas, moi je fais ma part. Sinon après on devient esclave des fleurs. Là. Maintenant le jour où les gens viendront pas te dire, pasteur, le message aujourd'hui c'était bon. Hein. Tu vas même croire que tu n'as même pas bien prêché. Puisque tu es habitué à entendre ça. Un serviteur de Dieu, c'est un porte-parole. Un messager de Dieu. Que vous dites amen ou pas, lui, il est convaincu qu'il a reçu le message de Dieu, c'est vous-même après avec le Seigneur. Pendant le temps de fécondation, parce que pendant le temps de l'arrosage, puisque l'arrosage est lié à la parole, l'arrosage est lié aux différentes révélations que Dieu vous donne, l'arrosage est lié aux différentes promesses que Dieu va vous faire, et Dieu va passer par plusieurs canaux, mais vous ne devez pas mépriser les prophéties, vous ne devez pas dire à tout le monde ce que vous recevez de Dieu. Mais vous devez, comme Marie, repasser dans votre cœur ce que Dieu vous a donné. Repasser, reméditer ce que vous recevez de la part de Dieu. Et pendant le temps de fécondation, c'est la période la plus difficile justement, le temps de fécondation. Pendant le temps de fécondation, je vous ai dit que pendant le temps de fécondation, Dieu veut faire naître, Dieu veut susciter la foi. Donc pendant ce temps-là, comment vous allez faire pour vivre? Ben, vous devez traverser ce temps-là par la foi. Vous devez pendant ce temps de fécondation-là développer, frères et sœurs, les fruits de l'esprit, être patient, la patience. Vous devez pendant le temps de fécondation garder l'espérance. Pourquoi je vous le dis? Tout à l'heure, je vous ai dit que le temps d'arrosage, c'est la période où Dieu vous fait des promesses. Or, les promesses nous sont données pour faire naître en nous l'espérance. Et l'espérance, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, lorsque dans le temps d'arrosage, vous avez reçu des promesses de Dieu et que vous traversez les temps de fécondation, parce que, encore une fois, je le répète, vous ne pourrez pas traverser le temps de fécondation sans d'abord qu'il y ait un temps d'arrosage. Ça ne peut pas commencer par un temps de fécondation, après le temps d'arrosage, après la germination. Non, non, non. Il nous explique, il dit, ainsi en est-il de ma parole. Il explique comment sa parole agit dans nos vies. Il dit d'abord, il faut qu'il y ait l'arrosage. Et quand on voit la vie de beaucoup de serviteurs de Dieu, comme on a évoqué Joseph et David, on se rend compte que Dieu commence d'abord par parler. Dieu appelle, Dieu interpelle. Et après, il les fait traverser dans des situations pour les briser, pour faire un travail dans leur vie. Donc pendant le temps de fécondation, là, la révélation que vous avez eue pendant le temps d'arrosage, là, la foi qui a été suscitée par rapport à la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole va susciter la foi. Cette foi qui va naître de la parole que vous avez reçue, cette foi qui va naître des promesses que vous avez reçues, c'est cette foi-là avec laquelle vous allez devoir marcher dans le temps de fécondation. Or, on ne peut pas parler de foi sans parler d'espérance. On ne peut pas parler de foi sans parler d'assurance. Donc, vous allez devoir traverser le temps de fécondation avec la foi. Pendant le temps de fécondation, vous allez être confronté à un combat. Pas le combat spirituel, mais le combat de la foi. C'est-à-dire, pendant le temps de fécondation, les promesses que vous avez reçues de Dieu seront attaquées par le diable. Il viendra avec le mensonge, avec le doute, les raisonnements. Est-ce que Dieu a réellement parlé? C'est là que nous devons combattre le bon combat de la foi, pas le combat spirituel où nous prenons autorité au nom de Jésus, on chasse les démons. Là, c'est pas une affaire de démons. C'est le combat au niveau de la pensée. C'est la parole qui est attaquée. C'est tes promesses qui sont attaquées par le diable à cause de ta condition. Tu vis des situations difficiles et le diable vient avec les pensées. Non, tu as vu ce que Dieu a parlé. Le bon combat de la foi. Pendant le temps de fécondation, c'est là que tu dois combattre le bon combat de la foi. Parce qu'il y a trois types de combats dans la vie du chrétien. Il y a le combat spirituel, il y a le combat de la foi et il y a le combat contre la chair. Mais là, on ne parle pas de la chair, on parle du combat, le bon combat de la foi où c'est beaucoup plus au niveau de ton âme. C'est le combat où ton âme, les pensées, tu es attaqué de toutes parts. Et l'objectif de ce combat-là, c'est de t'amener à douter de la parole de Dieu. C'est de t'amener à douter des promesses de Dieu. C'est justement là où le diable vient de façon subtile, comme il a fait dans le jardin d'Éden, en te disant, Dieu a-t-il réellement dit ? Et si tu connais pas la parole, si tu connais pas les promesses, si Dieu ne s'est pas révélé personnellement à toi, tu vas commencer à raisonner, à douter, et tu dis, ah, mais en fait, c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'avait parlé? C'est le combat où les paroles, les promesses que tu as reçues sont attaquées à diverses pensées. À cause de quoi? Et à cause de ta condition. Rien ne va dans ta vie. Tu penses que c'est vraiment Dieu qui t'avait parlé. Tu penses encore, tu espères encore te marier. Tu espères encore avoir des enfants. Tu espères encore voyager. Tu ne penses pas que le temps est passé. Le combat, le bon combat de la foi au niveau de l'âme, au niveau des pensées. Et c'est là, pendant le temps de fécondation. C'est pourquoi ce bon combat de la foi, on ne peut réussir et triompher que par la foi. Or, la foi, c'est que tu te tiens sur la parole que tu as reçue de Dieu. Et tu dis à Satan, tu as menti. Parce que mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier. Tu as menti, Satan. Tu refuses le mensonge du diable. Et tu t'assois sur la vérité de Christ. Parce que c'est le combat de la vérité contre le mensonge. Lui, le diable, vient avec le mensonge. Toi, tu dois t'asseoir sur la vérité que tu as reçue de Dieu. Et donc, à ce moment-là, tu vas devoir manier correctement l'épée de l'esprit et le bouclier. Parce que le bouclier de la foi va, la Bible dit quoi, éteindre les traits enflammés du malin. Mais entre-temps, il n'y a pas de foi sans parole. C'est la parole qui suscite la foi. Et c'est cette même parole-là qui affermit la foi. C'est cette même parole-là qui est le fondement de la foi. Donc, tu auras besoin de la parole dans ce combat. Sans la parole, sans les assurances dans la parole de Dieu, tu vas être écroulé. C'est pourquoi dans le combat, dans le temps de fécondation, tu vas devoir marcher par la foi. Tu vas devoir développer la patience. Tu vas devoir t'accrocher à l'espérance. Et aussi, vraiment, n'oublie pas dans le temps de fécondation, les différentes promesses que tu as reçues de Dieu. Vous savez, il a fait 400 ans, il ne parlait plus. Mais le peuple avait sur lui les promesses. Israël, Dieu ne parlait plus pendant 400 ans. Mais il avait déjà libéré les promesses sur le peuple. C'est la chose avec laquelle tu dois marcher, même à un moment de ta vie où Dieu, tu as l'impression que Dieu n'est plus là. Les promesses. Quelles sont les promesses? Je vous parlais un peu de mon témoignage ici tout à l'heure, mais c'est vrai. Vous savez, frères et sœurs, ce qui m'a maintenu au Maroc pendant toutes ces années-là, ce sont les promesses que Dieu m'avait faites. Si Dieu ne m'avait pas parlé, depuis longtemps, j'aurais quitté ce pays. C'est parce que j'ai reçu des promesses de Dieu. Et j'ai marché avec ces promesses-là contre vents et marées, contre toute forme de persécution que je pouvais avoir. Mais j'avais des promesses. Dieu m'avait donné des paroles. Et ces paroles-là, c'est ça qui fortifiait ma foi. Dans les moments les plus difficiles que j'ai traversés au Maroc ici, ce sont ces paroles-là qui me fortifiaient. À un moment donné de ma vie, c'était tellement difficile, je voulais abandonner le ministère, rentrer parce que le peuple de Dieu était ingrat. Le Seigneur, j'ai fait 3 semaines, je n'allais plus à l'église parce que le peuple de Dieu était ingrat. J'étais frustré dans mon âme, blessé. J'ai fait 3 semaines, j'ai été en train de réfléchir comment quitter ce pays et vous abandonner. Eh oui. Le Seigneur, la 3e semaine, est venu me parler. Il m'a dit, Gaël, ce n'est pas ce peuple qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Repars servir le peuple. Pendant 3 semaines, nous étions à l'église anglicane. Je n'allais pas à l'église. J'étais tellement frustré, blessé dans mon âme à cause du peuple de Dieu. Mais la 3e semaine, pendant que j'étais en prière, le Seigneur me dit, ce n'est pas le peuple qui t'a appelé, c'est moi qui t'ai appelé. Repars servir le peuple. Mais Dieu m'a donné des promesses. Donc j'ai marché durant toutes ces années ici avec les promesses, frère. C'est pas parce qu'il y avait de l'argent aussi qui me gardait au Maroc. Les promesses de Dieu. Donc pendant mon temps du soir, pendant mon temps de fécondation, je marchais qu'avec les promesses. J'ai vécu des humiliations, mais j'avais les promesses de Dieu. Et comme Dieu nous justifie, il y a un temps de germination, Dieu, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est pourquoi, frère, les temps de germination, les temps de fécondation, les temps du soir de votre vie, là, si vous avez au préalable reçu, pendant le temps d'arrosage, les paroles de Dieu, là, gardez ces paroles-là et marchez avec. Quant aux vents et marées, ne vous laissez pas voler les paroles que Dieu vous a données. Parce que c'est votre seule bouée de sauvetage. Si vous abandonnez la parole de Dieu, c'est fini pour vous. Si vous doutez de la parole de Dieu, c'est fini pour vous. Parce que douter de la parole de Dieu, c'est douter de Dieu lui-même. Alors que Dieu est fidèle. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Dieu ne change pas. C'est toi et moi qui changeons. Mais pas Dieu. Pendant le temps de fécondation, il faut n'oublier pas les promesses. C'est pourquoi dans Ésaïe 35, il a dit, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des moments où tu as besoin de rester seulement silencieux et calme dans sa présence. Tu n'as plus besoin à un moment donné, pendant ton temps de fécondation, tu n'as pas besoin de te justifier devant les hommes. Parce qu'ils ne comprendront pas ce qui se passe dans ta vie. Si tu perds ton temps à te justifier, tu vas te faire du mal à toi, mais ils ne vont pas comprendre. Les hommes vont t'emmener sur le chemin de la logique. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Mais Dieu, quand il fonctionne avec quelqu'un, il ne t'emmène pas dans ce terrain de la logique, là. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu décide de travailler la vie de quelqu'un, il ne passe pas par la logique. Donc c'est normal que les gens ne te comprennent pas. Mais toi, continue espérant l'Éternel. Il y a des moments où tais-toi seulement. Tais-toi seulement, ne parle pas. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et ça, j'aime le son très fort en moi pour quelqu'un dans cette salle. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as voulu le faire, regarde ce que ça a produit. Les hommes ne comprendront pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Ne te justifie pas. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Laisse Dieu faire. Si réellement, c'est Dieu qui est au contrôle. Tu n'as pas besoin de te justifier. Il a dit, il est bon d'attendre en silence. Il y a des moments où il faut savoir se taire aussi avec Dieu. Parce que ce n'est pas à toi de te justifier. Le secours de l'Éternel, ça viendra. Mais il y a des attitudes, il faut être silencieux, il faut être calme. Il faut être tranquille. Ne t'agite pas. Si tu es convaincu que la promesse que tu as reçue venait de Dieu, ça s'accomplira certainement. Et lorsque ça s'accomplira, tu seras un signe d'étonnement. Parce que quand Dieu il fait les choses, il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Même la médecine va se poser des questions. Mais comment c'est possible? Parce que Dieu ne fonctionne pas selon les données, les coordonnées des hommes. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Et pendant les temps de germination, puisque je termine par là, parce que je ne saurais vous également vous dire comment vivre pendant le temps d'abondance et de révélation. Parce que là également, n'est pas parce que tu es rentré dans ta destinée que tu ne dois pas savoir comment vivre dans cette destinée. Ce n'est pas parce que tu es rentré dans ton élévation que tu dois vivre comme tu veux. Même, Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance. Même dans l'abondance, il a appris à vivre. Donc, ça veut dire que quand Dieu permet certaines saisons dans nos vies, là également, tu dois te poser les bonnes questions. Comment vivre dans l'abondance? Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'en te bénissant, que tu deviennes orgueilleux. Je vais leur prouver, je vais leur montrer, je vais punir les gens du quartier. J'ai trop souffert. Maintenant, je vais les punir. Ce n'est pas ça. Quand Dieu te bénit, là où tu ouvres les portes, la faveur et tout ça là, ce n'est pas pour que tu te venges et tu vas punir les gens. C'est que dans ton élévation avec Dieu, tu dois apprendre à rester humble. Quelles que soient les bénédictions, les faveurs de Dieu, les opportunités divines, tu dois garder un cœur humble. Humilité oblige. Tu ne peux pas faire autrement. Tu dois garder un esprit de reconnaissance, te souvenir d'où tu as été tiré. Tu ne dois pas dire, ah, je suis parvenu, c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Ce n'est que la grâce de Dieu. Tu dois être humble, avoir un esprit de reconnaissance, te souvenir toujours de ta source. Tu viens. Tu ne dois pas oublier ton histoire. C'est pourquoi nous avons, à l'époque où vous êtes arrivés, vous avez trouvé ici, nous sommes les rois. Le Seigneur m'avait inspiré ça. Je vais faire ce jeu de mots-là de roi. C'est-à-dire que la première des choses, avoir un esprit de reconnaissance, un esprit d'obéissance, un esprit d'intégrité, un esprit de sanctification. Je bénis Dieu parce que c'est toujours ici. Quelle que soit l'élévation, quelles que soient les bénédictions et les grâces, vous devez savoir toujours vous humilier devant le Seigneur et reconnaître que tout don parfait, toute grâce excellente vienne de Dieu. Ne tombez pas dans le piège de Nebuchadnezzar, que Dieu a élevé. Dieu a donné la suprématie. Mais Nebuchadnezzar a oublié qu'il était quelque part. Et alors ce jour-là, il se promenait dans son palais, se promener dans Babylone. Il a dit, oh Babylone la grande, que j'ai acquis, que j'ai bâti par ma puissance. Et parce que Nebuchadnezzar n'a pas su reconnaître que ce qu'il était devenu, c'était Dieu qui lui avait donné, Dieu l'a précipité. Parce que l'orgueil d'un homme précède la chute. Précipité par Dieu. Précipité. Il a été précipité. Saül avait oublié qu'il était dans une famille insignifiante, famille de Benjamin. Il était caché quelque part. Mais Dieu a permis qu'il accède à la royauté. Et Saül, accédant à la royauté, a commencé à faire les choses à sa manière. Alors Dieu envoie la voix prophétique. Samuel vient dire à Saül. Parce que Saül n'a pas un cœur pour Dieu. Il dit, mais souviens-toi. Samuel rappelle à Saül. Il dit, souviens-toi lorsque tu es encore petit à tes yeux. Est-ce que ce n'est pas Dieu? N'est-ce pas Dieu qui t'a donné la royauté? N'est-ce pas Dieu qui a fait de toi le chef de son peuple? Il dit, souviens-toi! Parce qu'effectivement, il y a la tentation pour l'élévation. C'est pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais vous le dire avec beaucoup de force ce soir, ne cherchez pas l'élévation. Ne cherchez pas la gloire. C'est Dieu qui élève. La Bible déclare l'élévation ne vient de l'Orient ni de l'Occident, ça vient de l'Éternel. Il élève qui il veut. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit à Abraham, cherche la grandeur. C'est moi qui te rendrai grand. Mais si vous commencez à faire de l'élévation une quête, vous allez créer une interférence spirituelle. Il ne vous a jamais demandé de chercher l'élévation. Jésus dit dans sa parole, aspirez aux choses humbles. Dieu élève qui il veut. Mais l'élévation, ce n'est pas le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est être serviteur. Parce qu'il a dit que celui qui veut être grand doit être le plus petit et servir les autres. Maintenant, on a un évangile aujourd'hui qui vous dit qu'il faut devenir grand. Non, frère. Il a dit, c'est moi qui élève. Ce n'est pas vous qui vous élevez. C'est Dieu qui élève.
Ce n'est pas vos calculs humains qui vont vous amener à l'élévation. C'est Dieu qui élève. C'est pourquoi il dit à Saül, quand tu étais petit, là, tu ne t'attendais même pas à être roi. C'est moi qui t'ai élevé à la royauté. Ce n'est pas toi. Mais quand tu commences à faire de l'élévation un but, frère, le but dans la vie, ce n'est pas ça. Le but, c'est Christ. Notre but, c'est Christ, parce que la Bible déclare, notre destinée, c'est de devenir comme Christ. Alors, qui était Christ? Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, ni regard pour attirer les écoles. Il n'était pas un top modèle. C'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. C'est notre Seigneur. Mais aujourd'hui, on vous dit qu'il faut chercher l'élévation. Frère, moi j'ai compris en lisant ma Bible que ce n'est pas la quête du chrétien. Ça, c'est un faux évangile. C'est Dieu qui élève qui il veut. Et ce jour-là, les fils de Zébédée, ils ont vu leur maman, ils ont dit, bon, mère, comment ils sont parentés par alliance avec Jésus? Ils ont dit, bon, ben, on va le voir, là. Comme ça, tu lui dis, dans le royaume de Dieu, là, comme il y a un trône là-bas, si on peut avoir notre trône à côté de son trône, à droite et à gauche. Alors la maman des fils de Zébédée vient voir Jésus. Vous dites à Jésus, mais dans ton royaume là, permets que mes fils soient à ta droite et à ta gauche. Alors pendant qu'elle vient négocier la place de ses enfants, les autres apôtres entendent le discours. Ça crée de la jalousie, de l'agitation. C'est là où le Seigneur dit que on n'a pas besoin de chercher la grandeur parce que pour être grand, il faut être le serviteur, celui qui veut être grand. C'est celui qui doit être le serviteur de tous. Il nous révèle que dans le royaume de Dieu, la grandeur ne fonctionne pas comme dans le royaume terrestre. Dans le royaume de Dieu, celui qui veut être grand doit commencer par servir les autres. Il doit être le serviteur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on vous dit. Il faut être grand, l'élévation, tu vas écraser, tu dois montrer, tu vas influencer, frère, attention. Serviteur des autres. Donc pendant le temps de germination, lorsque vous rentrez dans cette saison d'abondance, de bénédiction, de faveur divine, gardez un cœur humble. Parce que de la même manière qu'il a donné, là, il peut aussi souffler dessus. Parce que les bénédictions que vous recevez ne sont pas éternelles. Il n'y en a qu'un seul qui est éternel, c'est Dieu lui-même. Ça veut donc dire que ce que vous pensez avoir reçu, il est capable de souffler. On a lu ça dans Agé. Il dit, j'ai soufflé. Dieu est capable de souffler. S'il sent que ton cœur commence à trop s'élever, il te dit, tu as oublié d'où j'étais pris. Je vais te briser. Nebuchadnezzar a fait 7 ans de brisement. 7 années, un roi qui a fait 7 ans, il a commencé à vivre comme un animal dans la brousse en mangeant de l'herbe. Un roi qui était brisé. Imaginez un peu le rond qu'il avait. Et qui se retrouve à vivre comme un animal. Dieu lui enlève même la raison. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout ce que nous avons vraiment, ça vient de Dieu. Même la raison, nos facultés intellectuelles, là, ça vient de Dieu. Parce que vous aurez pu naître avec un dysfonctionnement dans la tête comme certains. Donc, Dieu va faire en sorte que le roi va perdre même la raison, va devenir fou. Qui donne la sagesse, qui donne l'intelligence, qui donne le discernement, c'est Dieu. Donc ne pensez pas que moi, tu n'es rien. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, c'est une grâce. Si tu as 2 pieds pour marcher, c'est une grâce. Il y a des gens qui n'ont pas des pieds pour marcher. Tu as des yeux pour voir, c'est une grâce. Il y en a qui sont nés aveugles, ils n'ont jamais vu le soleil, ils n'ont jamais vu le ciel, ils n'ont jamais vu leurs parents. Mais toi, tu as pu voir tes parents, c'est une grâce. Tu aurais pu naître aveugle. Il y en a qui n'entendent pas, mais toi, tu entends. Qui a donné ça? Ce n'est pas Dieu. Tout est grâce. Et lui, il a refusé. Dieu enlève la raison. Il devient fou. Dieu l'envoie dans la brousse. 7 ans, c'est même pas 7 mois. Frère, c'est fort. Est-ce que vous mesurez, quand vous lisez la Bible, rentrez dans le contexte. 7 ans. 7 années, tu te retrouves à vivre comme un animal. et la septième année. Parce qu'apparemment, ça dépendait aussi de lui. Parce que tant qu'il ne reconnaissait pas Dieu étant au-dessus de lui, il restait dans sa condition. Maintenant, la septième année, la Bible déclare, c'est lorsque Nebuchadnezzar reconnut qu'il y avait un Dieu au-dessus de lui, à ce moment-là, la raison lui revint. Tant qu'il n'avait pas reconnu Dieu au-dessus de lui, il restait dans sa situation. C'est pourquoi je dis que la repentance précède la restauration. Vous voulez être restauré, commencez par bien vous repentir devant Dieu. Tant que tu ne te réponds pas comme il se doit, tu ne vivras pas la restauration véritable. Et lui, il fallait qu'il se repente vraiment. Et lorsque il a tourné, il a levé les yeux vers le ciel. Parce qu'avant, il ne levait pas les yeux vers le ciel. Avant, il regardait les autres d'en bas. Parce qu'il était et je suis. Mais Dieu voulait le briser pour qu'il apprenne à regarder qu'au-dessus de lui, il y a un Dieu. Et lorsque Nebuchadnezzar a levé les yeux, à ce moment-là, il a reconnu Dieu. La raison est revenue. C'est pourquoi j'aimerais vous le dire. Vous voulez rentrer dans la restauration, mais sachez bien vous repentir. Et la repentance, ce n'est pas la confession des péchés. La confession des péchés fait partie de la repentance. Mais la repentance, c'est d'abord une prise de conscience de ton état devant Dieu. C'est d'abord une prise de conscience. Et cette prise de conscience doit t'amener à prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Et cette décision, cette résolution-là, doit être manifestée par des faits, des actes concrets. Tu vas commencer à confesser et tu vas prendre la résolution de ne plus repartir dans ces choses-là. Et tu vas veiller à demeurer dans le chemin que tu as choisi de marcher. Nous avons fait de beaucoup de chrétiens des confesseurs de péché. Le Seigneur veut des hommes et des femmes qui sont repentis, qui d'abord au niveau de la prise de conscience de leur état devant Dieu. Et puis après, être déterminé dans sa marche avec le Seigneur. Pendant le temps de germination, j'insiste là-dessus parce que tout le monde aspire à ça, mais je veux vraiment insister. Apprenez à rester humble. Gardez un cœur pour Dieu. Gardez un cœur pour Dieu. Et ça, c'est un vrai problème pour nous, les Africains, parce que le blanc, lui, vous savez, le blanc, vous allez avoir des blancs qui ont beaucoup d'argent et tout ça là, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'il a beaucoup d'argent. Mais l'Africain, quand il a un peu seulement là, un peu là. L'Africain, quand il a seulement un peu là. Mais tout le quartier doit savoir qu'il a quelque chose. Vous avez des blancs multimillionnaires, mais tu ne peux pas savoir. Mais nous, les Africains, tu as seulement le peu là. On voit déjà que le monsieur, il est en train de se faire du bien. Parce qu'on a un cœur trop. Je ne sais pas si c'est les histoires d'esclavage, mais nous, pourtant, on n'a pas cet héritage d'esclavage. Parce qu'on n'a pas appris. Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humilité, dans l'humiliation. Apprenons à vivre dans ces différentes saisons, frères et sœurs. La bénédiction, c'est bien, mais sachez que si vous gérez mal la bénédiction, vous pouvez également vous éloigner de Dieu. Parce que le véritable enjeu, ce n'est pas ce que Dieu vous donne, c'est comment vous gérez ce que Dieu vous donne. C'est ça le problème. Dieu ne se répond pas de ses dons et de son appel. Mais le problème, c'est comment tu gères ce que Dieu te donne. Saül, c'est Dieu quand même qui l'avait choisi pour le peuple. Mais volontairement, il a choisi de marcher dans le chemin de la désobéissance. Ce que Dieu vous donne, c'est bon. Mais maintenant, comment tu gères ça? Comment tu gères ça? Est-ce que tu l'utilises pour te prévaloir? Ou bien tu reconnais que vraiment c'est une grâce de Dieu? Alors ce soir, on va prier. Parce que j'ai terminé sur comment vivre dans la saison. Il faut que Dieu nous donne un cœur humble. Un cœur humble. Garder la simplicité avec Dieu, même quand Dieu te bénit au-delà. Mais quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour punir les gens du quartier. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour leur prouver que j'ai tellement souffert. Maintenant, ils vont savoir que moi aussi, j'ai un Dieu. Parce que dès l'instant où tu as commencé à faire ce genre de prière, sache que Dieu n'est pas avec toi. Parce que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de prouver aux autres que tu es. Tu n'as pas besoin de prouver aux autres que tu es. Si tu penses que c'est ça être chrétien, c'est que tu n'as rien compris comment Dieu fonctionne. On n'est pas chrétien pour prouver aux autres que nous sommes de Dieu. On va leur montrer que nous aussi on prie Dieu. Et ils verront que je prie un Dieu véritable. Non, frère. Avec des paroles que je trouve arrogantes aujourd'hui, tu prends Dieu aujourd'hui, voilà, si ton Dieu il est mort, essaye le mien. Frère, Dieu n'est pas un instrument. Si ton Dieu il est mort, essaye le mien. On va l'essayer comment? On n'a aucun respect pour la divinité. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Tu vas l'essayer comment? Dieu, on ne l'essaye pas. Dieu, c'est une affaire de révélation. Vous allez l'essayer comment? Et beaucoup de gens le disent. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Et moi, j'entends ça souvent en France là-bas. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. On veut prouver aux gens que nous, on a le vrai Dieu. Fais attention. Toi-même qui pense que tu as le vrai Dieu, Dieu peut te confondre toi-même. Il va te dire, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Soyons humbles. L'humilité. Et au fur et à mesure que vous apprendrez à être humble, Dieu continuera à bénir. Mais quand Dieu va voir que vos cœurs, les racines de l'orgueil sont en train de pousser, la Bible déclare Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, frères et sœurs, n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu vous bénira assurément. Dieu vous visitera assurément. Dieu va vous faire entrer dans votre destinée assurément. Mais ma seule inquiétude, c'est comment vous allez y entrer et ça va se passer comment. Vous devez apprendre à vivre dans les différentes saisons. Pourquoi je vais inviter les chantres, on va prier. On va se mettre debout, tous ensemble. C'est pourquoi ne soyez pas pressés de demander des bénédictions à Dieu. C'est pourquoi Dieu permet certains temps dans vos vies. Parce que tu demandes des choses à Dieu alors que tu n'es même pas prêt à les gérer. Quelqu'un va demander à le Seigneur, donne-moi un grand ministère de 1000 membres. Alors que tu n'es même pas capable de diriger 50 personnes. Ce n'est pas possible. Dieu est sage. Pour qu'on sache que je suis un homme de Dieu. On n'est pas là pour prouver aux gens. J'ai la plus grande église. Il y a plein d'orgueil aujourd'hui dans le corps de Christ. Et quand les gens ils discutent avec vous, ils commencent tout de suite par savoir, vous êtes combien? Frère, Dieu ne nous a pas demandé de faire le dénombrement. Ce n'est pas nous de dénombrer, il connaît ceux qui lui appartiennent. J'aime bien une de nos mamans en France là-bas. C'est ce qu'elle a répondu à une sœur. Une sœur est venue la voir. Ah, mais au fait, vous êtes combien? Ça se passe comment? La sœur, la maman, a dit à cette sœur-là, Dieu ne m'a pas donné le droit de dénombrer. Alors, elle en a parlé avec mon épouse et j'ai ri, j'ai dit, elle a compris. Le dénombrement, quand David a voulu dénombrer le peuple, Dieu l'a frappé. Parce que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Vous pouvez avoir une assemblée de 1000 personnes et dans les 1000 personnes, Dieu voit qu'il y a peut-être que 10 qui lui appartiennent. Ce n'est pas la foule qui détermine que Dieu est avec tout le monde. Donc le dénombrement, là, ce n'est pas à nous de dénombrer les gens. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il a dit dans sa parole. C'est pourquoi dans les rassemblements comme ça, c'est tout le monde qui vient. On n'est pas là pour juger, pour dire non, lui là, il ne va pas rentrer. Lui là, il n'est pas le Dieu. Non, non, non. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. On ne dénombre pas. Maintenant, tu dis, Seigneur, je vais avoir la plus grande église. Pourquoi tu vas avoir la plus grande église? Est-ce que c'est ça le but? Le but, ce n'est pas d'avoir la plus grande église. Le but, c'est de sauver les âmes. C'est de faire des disciples. Donc, si dans ta mission, Dieu t'a dit de former 50 personnes, tu rendras compte sur les 50 personnes. Celui que Dieu a demandé de faire le travail sur 10 000 personnes, il rendra compte sur les 10 000 personnes. Nos talents ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne sert à rien de faire la course. Mais il faut connaître ce que Dieu attend de vous. Et quand vous connaissez ce que Dieu attend de vous, vous n'êtes plus frustré inutilement. Il y a certaines frustrations dans vos vies que vous devez commencer à les éviter. Pourquoi tu es frustré? Pourquoi tu es frustré? Tu vas te dire, mais ton heure, ce n'est pas l'heure du voisin. Seigneur, un tel, ça marche pour elle. Seigneur, les portes sont ouvertes. Un tel a eu le visa. Seigneur, un tel. Mais Seigneur, moi, quand est-ce? Et Dieu dit, mais toi, tu n'es pas ton voisin et ta voisine. Bénis Dieu. Apprends à célébrer Dieu pour ce qu'il fait dans la vie des autres. Quand ta voisine, Dieu l'a visitée, lui a ouvert la porte du travail, du mariage, du voyage. Bénis Dieu. Dis, Seigneur, que ton nom soit béni pour la vie de ma soeur. Mais nous, aujourd'hui, là, on ferme notre cœur. On ne veut même pas bénir la personne. Parce que pour nous, là, ce n'est pas encore arrivé. Non, frère. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Pas seulement pour ce qu'il a fait dans ta vie, mais pour ce qu'il est dans l'univers entier. Si Dieu a fait des grandes choses dans la vie de ton voisin, apprends à reconnaître et à célébrer Dieu pour ça. Parce que les actions surnaturelles de Dieu sur la terre, c'est pour que toute la terre puisse le célébrer et le louer. Ce n'est pas pour que ça soit caché. Donc, si Dieu puissamment visite un voisin, une voisine, un parent à toi, et que tu as reçu le témoignage, lève les mains vers le Seigneur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Parce que encore, tu confirmes que tu es vivant. Et nous, aujourd'hui, on ne veut pas se comporter comme ça. Parce qu'on veut d'abord pour nous, là. Si comme Dieu n'a pas encore fait pour moi, là, pourquoi je veux célébrer l'autre? C'est qu'on n'a rien commun. La louange à Dieu ne dépend pas de ce qu'il fait pour toi. Ça dépend de ce qu'il est. Et Dieu ne cessera pas d'être parce qu'il ne fait pas dans ta vie. Même si tu n'as pas encore guéri de ta maladie, ça n'empêche pas que Dieu soit Dieu. Donc ne fût-ce qu'à cause de ça, loue l'Éternel. Il n'a pas dit que ceux qui sont en bonne santé, ceux dont les problèmes sont résolus me louent. Il dit que tout ce qui respire. Lui qui crée le mouvement, l'être et la respiration, pourquoi tu vis encore? Pourquoi tu as des yeux pour voir? Pourquoi tu as des oreilles pour entendre? Pourquoi tu as des pieds pour marcher? Pourquoi il te garde dans cet état-là? Pour que tu puisses le louer. Et quand vous comprenez cela, à ce moment-là, votre manière de le servir, de marcher avec Dieu, elle change. Vous apprenez à louer Dieu pour les autres. Mais quand pour vous-même, là, ça va arriver, ça sera comment? Si déjà pour les autres, tu apprends à célébrer Dieu, mais quand ça sera pour toi-même? Je dis vraiment, celui-là, il a compris. C'est un bâtisseur d'hôtel. Chaque fois qu'il me voit à l'œuvre, que ce soit dans le monde, à travers les médias, autour de lui, il a un cœur d'adorateur. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Pour la sœur Intel, je connaissais sa vie. Elle a tellement souffert, tu l'as ouvert la porte. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire ça. Seigneur, que ton nom soit béni. Pour la beauté des océans, merci Seigneur. C'est ce que le Seigneur, il attend de nous. Garder un cœur d'adorateur. Mais pas seulement parce qu'il a fait pour toi, mais pour ce qu'il est. Parce que frères et sœurs, Dieu ne fera pas toujours, mais Dieu sera toujours. Il ne fera pas toujours, mais il restera celui qui est. Et quand tu comprends ça, tu ne feras plus du chantage avec Dieu. Tu ne vas plus faire des ultimatums avec le Seigneur. Tu vas l'adorer non pas pour ce qu'il fait, parce que si ton adoration dépend de ce qu'il fait, ça veut dire que le jour qu'il ne fera pas, tu n'adoreras pas. Mais si ton adoration dépend de ce qu'il est, ça veut dire que perpétuellement jusqu'au retour du Seigneur, tu adoreras Dieu. Et à ce moment-là, tu auras compris véritablement le sens même de ton existence sur la terre. Créé et recréé en Jésus-Christ pour servir à la gloire de celui qui est assis sur le trône. Et là, tu auras compris le vrai sens de la vie. Et tu ne seras plus frustré inutilement par ce qui se passe autour de toi. Que Dieu nous aide. Tu vas prier pour toi-même. Quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux comprendre le langage de la saison et je veux vivre. Je veux... Pendant la saison d'Arosa, si je suis dans une saison de ma vie où tu es en train de me parler, Seigneur, donne-moi le discernement. Seigneur, donne-moi de ne pas mépriser les différents canaux. Donne-moi de ne pas t'imposer la façon dont tu dois me parler, mais donne-moi d'apprécier les différents canaux par lesquels tu vas me parler. Si tu traverses le temps de fécondation où tout semble sombre, noir, tu as l'impression que tout ne va plus dans ta vie. Il te dit, souviens-toi des promesses que tu as reçues, souviens-toi de la parole et combat le bon combat de la foi. Et si tu traverses une saison où tout est favorable, tu vis des grâces, des faveurs, des bénédictions, des opportunités, tout semble aller bien pour toi, il te dit, garde un cœur humble et souviens-toi toujours d'où je t'ai pris. Sois reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, celui qui offre à l'Éternel un sacrifice de reconnaissance le glorifie. En étant reconnaissant, ta vie est en train de glorifier le Seigneur. Parce que le manque de reconnaissance fait en sorte que tu voles la gloire de Dieu. Tu vas t'approprier quelque chose qui ne te revient pas de droit. Chaque fois que tu manques de reconnaissance, tu voles la gloire de Dieu. Alors que Dieu nous donne ce cœur-là, qui reconnaisse toujours que je suis ce que je suis devenu par la grâce de Dieu. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout vient de la main d'amour de Dieu, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce, tout vient de la main d'amour de Dieu. Tes grâces, tout vient de la main d'amour de Dieu. Tes grâces, tout vient de la main d'amour de Dieu. Toutes tes grâces, tout vient de la main d'amour de Dieu. Encore une fois, Alors apprécie la grâce de Dieu. Le Seigneur te rappelle que tout est grâce ce soir. Cette grâce de Dieu que peut-être que tu ne mesurais pas, tu ne réalisais pas. Mais la grâce de vivre est une grâce, frères et sœurs.
Marcher est une grâce. Parler est une grâce. Sentir est une grâce. Entendre est une grâce. Manger est une grâce. Être vêtu est une grâce. Avoir un emploi est une grâce. Être marié est une grâce. Avoir des enfants, c'est une grâce. Avoir une bonne santé mentale, c'est une grâce. Alors prends le temps d'apprécier encore ce soir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Que tout est grâce, que tout est grâce, que tout est grâce. Alléluia. Tout est grâce.
Tout est grâce.
Tout est grâce.
Tout est grâce.
Tout
vient de la main d'amour.
Tu vas prier le Seigneur qui te donne un cœur reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant, tu en as besoin. Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, travaille mon cœur, je ne veux pas être orgueilleux. Donne-moi d'avoir un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant, Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur reconnaissant. Élève ta voix, je te donne un cœur reconnaissant. Car celui qui offre la reconnaissance à Dieu le glorifie. Dieu est glorifié lorsque tu as un cœur reconnaissant. La reconnaissance glorifie Dieu. La reconnaissance glorifie le Seigneur. Un cœur reconnaissant. Que Dieu nous aide.
Oui, Père, nous venons tout déposer à tes pieds, Jésus. je t'aime à toi. Oui, tel que je suis. Je veux tout abandonner à tes pieds ce soir. Je viens à toi. Oui, Jésus, je viens.
Je viens.
Oh, bah, te voici.
Je viens à toi.
Je viens à toi.
Tel que je suis.
Alors tu peux transformer les paroles de ce chant en prière. Il dit dans le livre de Matthieu, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors ce soir, tu peux en toute sincérité parler au cœur de celui qui voit la profondeur de nos âmes. Tu peux lui dire, Seigneur, voici quel est l'état réel de ma vie. Seigneur, voilà l'homme que je suis. Seigneur, voici la femme que je suis. J'ai fait des choix, j'ai pris des décisions, Seigneur, qui m'ont éloigné de toi. Et au travers de ton serviteur, tu m'as parlé. Et ce soir encore, je veux m'abandonner. Je veux tout déposer à tes pieds. Je veux espérer à nouveau. Je veux me reconsacrer avec toi. Tu peux le dire au Seigneur. Alors tu peux transformer les paroles de ce chant en véritable prière. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Tu vas prendre la main de ton frère, la main de ta sœur. Tu vas élever la prière pour ton frère. Tu vas dire, Seigneur, nous refusons d'être des auditeurs oublieurs. Seigneur, que cette parole qui est tombée dans nos cœurs porte véritablement du fruit. Fais de nous des hommes et des femmes qui ne se contentent pas d'écouter la parole, mais qui pratiquent la parole. Parce que le Seigneur dit, vous serez, vous êtes réellement mes disciples, pourvu que vous pratiquez ma parole. Alors tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta sœur. Tu vas dire, Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur à pratiquer ta parole. Parce que c'est ça ce que tu attends de nous. Il t'a plu de nous parler. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui écoutent seulement pour écouter. Mais nous voulons être de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas prier le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Nous avons tellement écouté, Seigneur, mais nous refusons d'être de ceux qui grandissent, qui s'accroissent en information, Seigneur. Nous refusons d'être des hommes et des femmes remplis d'informations, mais informations non appliquées. Nous refusons d'être à l'image de ce figuier qui a l'apparence d'un arbre qui porte du fruit, mais qui n'en porte pas, Seigneur. Nous porterons véritablement de fruits pourvu que nous pratiquions ta parole. Seigneur, tu dis, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. On reconnaît ceux qui sentent à toi au travers de leurs fruits. Seigneur, nous voulons être de ceux qui appliquent, qui pratiquent ta parole. Seigneur, nous voulons être de ceux, Seigneur, qui écoutent et qui mettent en pratique. Aide-nous, ô grand roi. Aide-nous, ô Seigneur. Aide-nous, ô grand roi. Que ces paroles que nous avons écoutées, Seigneur, ne soient pas une information de plus dans nos cœurs. Que ces paroles que nous avons écoutées ne viennent pas meubler seulement nos cahiers. Seigneur, que ces informations que nous avons écoutées ne viennent pas seulement exciter notre foi, mais au contraire, Seigneur, édifie-nous véritablement. Que ces paroles, ô grand roi, nous édifient, nous fondent véritablement, donne un sens nouveau à nos vies. Seigneur, nous te le demandons comme une grâce. Fais-le, ô grand roi, Seigneur, fais-le, ô Seigneur. Seigneur, fais-le pas comme un ordre, mais comme une grâce, Seigneur. Nous soupirons après toi ce soir. Nous refusons d'être des enfants, Seigneur, qui écoutent pour écouter, Seigneur. Ah oui, Seigneur, nous avons tellement écouté, nous avons tellement entendu. Seigneur, nous voulons pratiquer. Nous voulons pratiquer ta parole. Nous voulons nous soumettre à ta parole, afin de jouir du fruit de ce qu'elle produit dans une vie, Seigneur. Nous en avons besoin, nous te supplions. Nous en avons besoin, nous te supplions. Nous en avons besoin, nous te supplions.
Dieu Tout-Puissant, il est écrit dans ta parole. Si ta parole demeure en nous et que nous nous demeurons en toi, Seigneur. Si ta parole demeure en nous et que nous nous demeurons en toi, Seigneur, tout ce que nous allons demander nous sera accordé. Il est écrit dans ta parole, Seigneur, que ta parole habite abondamment en nous. Encore, Seigneur, en ces deux premiers jours du séminaire, nous sommes venus pour répondre à cela. Recevoir, Seigneur, encore ta parole. Permets que ce que nous avons reçu, Seigneur, de tes armées, reste dans nos cœurs. Et produit du fruit par le nom de Jésus. Oui, Seigneur. En chacun de nous, tu as semé une nouvelle semence. Et tu as arrosé, Seigneur. Tu as arrosé encore, Seigneur, en cette période. En ces deux jours, Seigneur, nous voulons que cette parole reste. Et que chaque enfant, chaque fille, chaque fils, que nous sommes dans cette assemblée qui a reçu, Seigneur, de tes armées, demeure dans cette parole. Car il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu connais la personne qui était perdue, Seigneur. Mais encore merci parce que cette parole est venue mettre la lumière sur les pieds de chacun de nous et sur le sentier de chacun de nous par le nom de Jésus. Seigneur, ne permets pas que cette flamme puisse s'éteindre. Ne permets que cette flamme soit toujours, toujours, toujours allumée. Comme cette lampe qui était dans le temple. Que cette parole demeure, demeure et demeure encore. Continue à te révéler à nous, Seigneur, à travers ta parole. Merci, Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alors nous sommes quasiment arrivés au terme de ce moment. Avant de passer aux offrandes tout à l'heure et à quelques annonces, je voulais juste passer une annonce. Je voudrais annoncer, informer justement tous les serviteurs que demain, À partir de 9h, nous aurons une petite rencontre ici avec le pasteur Gaël avant le culte. Il est vrai que le culte commence à 10h30. Donc de 9h à 9h, à 10h pile, nous aurons une heure de rencontre avec le pasteur Gaël. Et assurément, nous savons, croyons, pour la ferme assurance que là encore, le Seigneur va nous équiper et nous bénir davantage. Amen. Et comme nous l'avons informé, le culte de demain, c'est un culte assez spécial, puisque c'est un culte de prière. Voilà pourquoi n'hésitons pas à inviter nos frères et nos sœurs qui n'ont pas pu être là, certainement pour diverses raisons, engagement professionnel ou autre, justement à prendre part à ces moments. Et nous sommes convaincus. La Bible déclare une chose, la Bible dit « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement ». Et je reste convaincu que le Seigneur nous fera du bien demain. Amen. Voilà pourquoi nous voulons passer au temps d'offrande. Nous allons simplement nous mettre debout et je vais appeler la sœur Florence. Que le Seigneur nous bénisse.
Gloire à Jésus. Amen. Donc nous pouvons nous lever librement et apporter ce que nous avons résolu dans notre cœur. Amen. Pasteur, j'ai juste une petite information à passer. On passe à l'heure d'été ce soir. Donc, à partir de 2h, il sera 3h. Il faudra ajouter une heure de plus. Et donc, les horaires donnés pour demain, une heure de plus. C'est juste ce que j'avais ajouté. Donc, pensez à régler vos horloges. Amen. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur, recommander la fin de cette journée ainsi que les moments de demain à la grâce de Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Papa, parce que tu nous fais du bien encore, Seigneur. À moi personnellement, Seigneur. Oui, Seigneur. Ta parole vient m'éclairer encore. Ta parole vient me booster encore. Ta parole vient encore, Seigneur, me faire du bien encore, Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ton serviteur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ton amour manifesté encore. Parce que c'est parce que tu nous aimes tant, Seigneur, que tu envoies ton serviteur nous corriger, nous parler, nous ramener, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Éternel, nous te recommandons le reste de cette journée. Nous te recommandons notre départ. De la même manière, Seigneur, que tu nous as emmenés ici, je crois et je te rends grâce de ce que tu nous ramènes chacun dans nos demeures respectives. Merci pour ton ange qui veille et qui campe autour de chacun de nous et qui nous délivre de tout danger. Merci, Papa. Merci, Seigneur, de ce que tu nous ramèneras demain ici, disposés encore à te louer, à t'adorer, à te célébrer d'un cœur sincère, éternel. Pour la seule gloire de ton nom. Merci encore pour ton serviteur éternel. Merci pour ce que tu feras demain. Merci Seigneur. Et c'est en ton nom Jésus que nous avons ici prié. Amen. Bonne fin de soirée à tous.
Des rois.